RCF.
Je vous dois d'être ce que je suis. Je vous dois d'avoir découvert l'Algérie qui était pourtant mon pays, mais où j'ai vécu en étranger toute ma jeunesse. Ces mots sont ceux de Pierre Claverie, adressés à ses frères et amis algériens en 1981. Monseigneur Claverie, dominicain, évêque d'Oran, assassiné en 1996 avec son chauffeur et ami Mohamed, et dont la vie, la foi et l'engagement nous sont proposés aujourd'hui comme modèle à travers sa béatification. Bonjour Jean-Jacques Pérennes.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, vous aussi. Vous avez été le directeur de l'Institut dominicain d'études orientales au Caire. Et aujourd'hui, vous dirigez l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous avez bien connu Pierre Claverie parce que vous avez vécu vous-même en Algérie pendant une dizaine d'années. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'Algérie et à Pierre Claverie, mais on peut citer celui qui paraît aux éditions du CERF et que vous avez intitulé « Pierre Claverie, un Algérien par alliance ». Pierre Claverie, que vous avez donc connu, est selon vous un modèle en termes de vie spirituelle et de vie tout court, d'engagement ?
Vous savez, ça fait drôle de parler en ces termes de quelqu'un avec qui on a fait la vaisselle. Et avec qui on a fait des promenades, et avec qui on a échangé plein de choses de la vie quotidienne. Souvent, on béatifie des gens qui sont des gens du XVIe siècle, du Moyen-Âge. Là, c'est un contemporain.
Et un ami.
Je suis arrivé à Alger comme jeune religieux en 1977. J'avais donc 28 ans. J'étais encore un tout petit peu secoué par les turbulences de l'Église catholique d'après Vatican II. Et dans nos ordres, il y avait eu beaucoup de turbulences. Et j'ai là rencontré un frère qui avait une solidité, une solidité très grande, une foi forte, mais sans affichage, sans. Et donc, ce n'est qu'après sa mort, en fait, que j'ai découvert à quel point je lui devais, en effet. Mais il a d'abord été un frère dominicain avec qui j'ai vécu en communauté, puis il est devenu évêque. J'ai continué à le voir quand il était à Oran, et puis ensuite, on se voyait moins souvent, mais on est resté en contact, en effet.
Donc, une personnalité que l'Église nous propose désormais comme modèle et qu'on peut suivre dans divers engagements de notre vie et dans la manière aussi d'envisager la vie peut-être, tout simplement.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une figure de sainteté de notre temps, c'est-à-dire souvent les saints sont des gens qui sont au moins dans nos têtes mis à part, qui sont idéalisés, qui sont quasi parfaits, etc. Et, bon, là, en fait, on a affaire avec les 19 d'Algérie, avec des hommes et des femmes qui ont des parcours, des cheminements parfois difficiles. Ce n'est pas le cas de Pierre Claverie, d'ailleurs. Enfin, un petit peu, on y reviendra sur son cheminement vers l'Algérie algérienne, hein, puisqu'il est né dans l'Algérie coloniale. Mais par exemple, quand on regarde le dernier livre qu'il vient de publier sur les moines...
De Tibérine.
Oui, de moines de Tibérine. Bienheureux ceux qui cherchent. C'est un ouvrage magnifique qui montre justement l'itinéraire de ces hommes qui, certains, en ont bavé, je veux dire, qui ont galéré, qui ont y compris dans leur vocation. Donc, ce n'est pas des saints en sucre qui sont je ne sais pas où, et ce sont des gens de notre temps. Et c'est en ça qu'ils sont pour nous un exemple, je crois. Ils nous montrent qu'au fond, avec ce que nous sommes, avec notre humanité, avec nos combats, eh bien, nous pouvons faire vivre l'Évangile là-dedans.
Et ils nous rejoignent donc.
Et ils nous rejoignent comme cela.
Alors, Jean-Jacques Pérennes, vous avez parlé de la solidité de Pierre Claverie. Est-ce qu'elle est à chercher, selon vous, dans l'enfance et surtout le milieu familial dans lequel il a grandi ?
Absolument. J'ai connu ses parents. Je les appelais papy et mamie,
ses
tous les deux. Les petits
vieux,
comme il disait. Oui. C'était deux vieux merveilleux. Famille pied-noir de 5 générations en Algérie, hein, donc depuis très longtemps. Milieu modeste, hein, classe moyenne, on va dire. Le papy avait un poste à la Shell, à la compagnie pétrolière Shell à Alger. Et mamie était au foyer. Il y avait deux enfants, Pierre qui était l'aîné, né en 38, et Anne-Marie, sa sœur, née après la guerre. Et c'était vraiment une cellule familiale extrêmement soudée, en grande partie à cause de l'enfance difficile des deux parents. Papy était un enfant naturel, en réalité. Il avait été adopté. C'est comme ça que le nom Claverie lui est tombé dessus. Et mamie avait eu des difficultés dans sa propre histoire personnelle. Et ce couple-là avait décidé d'être heureux et de rendre une famille heureuse.
Et donc, ils y sont parvenus.
Ah, c'est extraordinaire. Et on a publié déjà 3 volumes de la correspondance familiale de Pierre Claverie avec ses parents. Il leur a écrit tous les dimanches pendant 40 ans. Et toutes ces lettres ont été gardées. Et cette correspondance témoigne d'une confiance mutuelle, d'une qualité d'amour, et je pense que c'est de là que vient ce que j'ai appelé tout à l'heure cette solidité de Pierre Clavery. C'est un homme qui était bien posé, bien solide, précisément parce que... Il se savait aimé. Moi, je dirais ça moi-même, dans ma propre vie, l'amour de mes parents a été le principal facteur de solidité que j'ai eu dans la vie. Le fait d'être né dans une famille qui tient, ensuite on peut traverser les tempêtes. Et Pierre a beaucoup reçu, en effet. Alors, s'y ajoute bien sûr la Méditerranée, ce côté pied noir, chaleureux. Il aimait la vie, il adorait la vie.
Favorable.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Et beaucoup d'humour.
De l'humour, et aussi, je dirais, un don exceptionnel pour l'amitié. Exceptionnel.
Il y a une dimension très importante de sa jeunesse sur laquelle Pierre Clavery reviendra plus tard. C'est cette espèce de vie à côté des Algériens, non pas vraiment avec eux, mais à côté d'eux, tant qu'il était jeune et avant son départ pour la France métropolitaine.
Oui, c'est un peu le paradoxe du monde colonial. Hein. Je pense que les pieds noirs se sentaient chez eux, et d'ailleurs ils l'étaient largement. Et en même temps, parce que beaucoup n'avaient pas vraiment la langue, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes milieux sociaux, parce que les Algériens musulmans n'avaient pas non plus les droits des Français de métropole ou des Français pieds noirs d'Algérie, ils étaient en effet un monde à part. Et Pierre, plus tard, dira « J'ai vécu toute mon enfance dans une bulle coloniale sans jamais rencontrer les autres et les voir. » Et ils étaient, disait-il, le décor de nos sorties et pas des partenaires. Et donc, il a cette phrase très forte « Nous n'étions pas racistes, seulement indifférent. » Et je trouve que c'est fantastique parce que là aussi, ça peut être un exemple pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, nous aussi, même dans le contexte de la France d'ici, nous pouvons côtoyer d'autres milieux humains qu'en fait, nous ignorons superbement. Et d'une certaine manière, le travail extraordinaire, douloureux d'ailleurs, que Pierre Clavery a dû faire, de reconnaître
l'autre
qu'il n'avait non pas rejeté. C'était des très braves gens. Comme l'étaient d'ailleurs la plupart de ces pieds noirs. Je veux dire, ils aimaient l'Algérie, mais ils étaient, par la force des choses, par le fait colonial aussi, ils étaient coupés. Et donc Pierre a dû faire un travail d'abord de découverte de cette rupture-là et de chemin vers l'autre. Et il l'a fait en grande partie parce qu'il est entré dans la vie religieuse. Bon, il a quitté l'Algérie au moment du début de ses études universitaires. Il est venu à Grenoble, il devient religieux. Et là, il rencontre des jeunes qui ont justement un autre regard sur l'Algérie coloniale.
Alors, on y reviendra parce que, avant ça, j'aimerais quand même qu'on parle aussi de l'expérience du scoutisme qui a beaucoup compté pour lui.
Très importante.
Vous parliez de l'amitié. Là, il a forgé des amitiés indestructibles.
Tout à fait. Il y avait une troupe scout constituée par les Dominicains d'Alger de l'époque, qui s'appelait la troupe Saint-Do, hein, Saint-Dominique. Et jusqu'à aujourd'hui, ces anciens à Saint-Do continuent à se rencontrer.
Elle existe encore aujourd'hui.
Oui, ça existe. Enfin, l'association s'est dissoute parce qu'ils sont très âgés, mais le réseau d'amitié a continué. Et le fait que Pierre a trouvé là aussi des amis, et comme on le sait du scoutisme, un milieu éducatif formidable. Hein.
Animé par des Dominicains, donc.
Oui, c'est ça.
C'est là son premier contact avec l'ordre.
Oui, l'ordre dominicain, il l'a connu par les scouts. Et la famille n'était pas très pieuse.
Ce que j'allais vous demander,
ouais,
le milieu familial n'était pas très pieux.
Ils allaient, les enfants étaient baptisés, faisaient leur première communion. Enfin, on allait à la messe de temps en temps. C'était pas des piliers d'église, mais il y avait une droiture extraordinaire, une sincérité, une vérité humaine qui sauvait tout.
Alors, il quitte donc l'Algérie parce qu'il faut bien faire des études. Et ses études le conduisent donc à Grenoble, où là, il va vivre une période un peu compliquée, un petit peu désemparée, une forme de désarroi va l'habiter.
Oui, il quitte en 57, donc au moment où la guerre d'Algérie bat son plein. C'est l'année de la bataille d'Alger, 57. Et il va à Grenoble, et alors il commence à écrire à ses parents. C'est à ce moment-là que commence la correspondance familiale. Et d'abord, il dit, oh, ici, c'est très difficile parce qu'il pleut tout le temps. Finalement, c'est le Méditerranéen qui ressurgit. Et surtout, il découvre une université française qui est très politisée par la question algérienne. Et lui, qui n'avait pas vu qu'il y avait une question algérienne, il prend ça en pleine figure. Et il est même tenté à un moment donné de s'allier à des groupuscules presque d'extrême droite qui vont déchirer témoignages chrétiens aux portes des églises. Enfin, alors très vite, grâce à la guidance de son père qui le suit quand même à la trace, Pierre va éviter de tomber dans ses panneaux.
Et puis il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas
voilà,
juste là-dedans.
Il sent quelque chose qui n'est pas juste. L'aumônier, l'université l'aide aussi. Et donc il fait le pas d'entrer au noviciat dominicain.
Avant ça, il a fait l'expérience quand même aussi de l'ennui. Il lit des romans policiers.
Oui, c'est un garçon qui cherche, quoi. Voilà, c'est un garçon qui cherche et voilà. Quand on cherche, il y a toujours des moments où c'est un peu aride, mais la lumière vient tout d'un coup, quoi. Et il aura un vrai don pour le bonheur, aussi non seulement pour l'amitié, mais c'était un homme heureux.
Il témoigne dans le livre que vous lui consacrez d'une expérience à la Salette.
Ouais,
il se passe quelque chose de profond pour lui, là. Qu'est-ce que
oui, tout
peut
à fait. Justement, c'est le moment où ça bascule, je crois. Il dit, voilà, on est monté, c'était le brouillard, etc. Et puis, on est descendu en roulant dans l'herbe, en faisant les fous. Et il y a une espèce de joie qui émerge. Et je trouve ça très, très beau de voir que cet homme qui... Là encore, c'est pas un bienheureux dont le chemin était complètement linéaire. C'est quelqu'un qui a cherché, c'est quelqu'un qui l'a un peu bavé, pas très longtemps en fait, mais quand même. Et voilà, la lumière est venue. Et donc ça nous le rend proche aussi, parce que beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous, et même nous-mêmes parfois, nous cherchons notre route, quelquefois douloureusement, difficilement. Et bien voilà, un chemin est possible.
On vous retrouve demain pour poursuivre donc l'évocation de Pierre Claverie. Merci.